Polyplaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la rencontre des polyglottes de l'amour. C'est Catherine, peintre et portraitiste, qui me reçoit dans son atelier à Ixelles. Elle nous parle de son parcours de vie riche en découvertes, elle nous parle de sa relation à l'autre. Catherine termine en ce moment l'écriture d'une autobiographie romancée qui semble être comme un cri de joie, une belle envie de partage.
Alors au fait, j'avais commencé ce projet d'écriture à l'époque sous forme de blog, plus parce que j'avais un ordinateur qui faisait des siennes, et je perdais toujours tout ce que j'écrivais, et je trouvais que le blog était un système assez pratique, parce que franchement, je ne perdais pas ce qui avait été fait. Et de fil en aiguille, donc, j'écrivais mes réflexions sur mes expériences de liberté que je retrouvais, mais que j'avais toujours vécu au fond de moi. Et après, c'est devenu un vrai blog, mais j'ai entre-temps enlevé tout ce qui a été écrit pour le roman et qui a été retravaillé. Donc le roman s'appellera « Journal d'une femme qui aime les hommes » et c'est sous forme de journal. C'est pas le blog qui a donné l'idée, mais il se fait que c'était sous forme de journal, donc c'est parler au « je » pour donner l'impression vraiment d'un... De quelque chose de vraiment vécu et de vraiment profond et de vraiment réel. Alors il s'agit, parfois je témoigne de comment j'y suis arrivée, à ces expériences de femme libre. Au départ je pensais que j'étais ce qu'on appelle une libertine, mais je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée, parce que justement les libertines ou les libertins ne revendique pas trop les sentiments, il me semble. Mais bon, c'est de nouveau mettre dans des tiroirs. Les gens ont toujours un besoin d'être mis dans des tiroirs. Et je crois que ce n'est pas nécessaire, même pour les libertins. Ils se disent libertins, mais ils sont probablement plus que ça aussi. En tout cas, c'est un milieu que j'ai fréquenté. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'étais au-delà même de ça. Et je vivais en couple avec un ami. Et je lui avais toujours parlé du fait que, enfin en tout cas ça a été comme ça avec tous mes amoureux, qu'ils ne m'appartiennent pas, mais eux ne me possèdent pas plus. Et c'est vrai qu'en poussant un petit peu la réflexion avec mon compagnon de l'époque, nous avons expérimenté vraiment une vie de couple assez libre. Il avait ses amoureuses. Moi, j'avais mes amoureux, ou un amoureux, ou parfois plus, parfois moins. Mais apparemment, ça n'a pas... Pour lui, c'était trop dur, et il n'a pas pu le gérer. Donc, pour l'instant, nous ne vivons plus ensemble. Mais ça reste quand même quelqu'un de très, très proche. J'éprouve beaucoup de besoin de lui parler, de le voir. Ça reste quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup. Mais c'est comme ça avec tous mes ex-amoureux, ou mes amoureux actuels. Pour l'instant, je suis plutôt dans une passe... monogame, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas du tout par conviction qu'il faille être monogame, c'est que je n'éprouve pas le besoin d'avoir d'autres amoureux. Quoique, bon, parfois j'ai des tentations, mais c'est pas si fort que ça. Alors, donc, ça c'était le projet. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement je l'ai complètement retravaillé et je suis dans une ultime relecture de ce projet, j'espère ultime, parce que chaque fois que je relis, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui tient la route, qu'il faut encore corriger, remodeler. Mais bon, mon objectif est de le terminer et de le déposer chez les éditeurs, puis après, bye bye, il fait son chemin. Ça, c'était mon objectif. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, avec ce projet que j'ai eu, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et c'est comme ça, entre autres, qu'en écoutant une émission de je ne sais plus, c'était sur la RTB, ça s'appelle « Parlez-moi d'amour », je ne sais pas quoi, j'ai entendu l'interview de la fameuse Françoise Saint-Père, et j'en revenais pas, quoi, parce qu'elle parlait exactement de tout ce que je pense, de tout ce que j'aime, et puis j'ai lu son livre, je me suis dit, heureusement que j'avais déjà écrit tout mon roman, avant, après ou avant, parce que sinon on aurait cru à du plagiat. Et c'est vrai que même maintenant, je me dis, mais pourquoi tu veux encore publier, parce que tout a déjà été dit. Mais je trouve que dans le roman, je témoigne d'histoires vraies pour montrer que c'est vrai, que c'est pas que de la théorie, en fait, tout cela. Évidemment, j'utilise des pseudos, je change le temps, et je romance malgré tout quand même l'histoire. C'est un roman parce que je ne parle que des bons côtés de mes amours, et j'ai pas envie de parler de les mauvais côtés, qui ne sont jamais des mauvais côtés, parce qu'on a chacun ses faiblesses et défauts. Mais c'est vrai que dans le polyamour, les mauvais côtés de l'autre sont vraiment très agréables. On n'est pas obligé de, comme avec un compagnon, une épouse, et dire, ah, mon Dieu, je vais devoir supporter ça. Non, ce sentiment de liberté fait que c'est plus que supporter. On aime les défauts de l'autre, je trouve. Voilà, donc c'est ça mon projet. C'est vrai que en aimant de plus en plus librement, je trouve que j'aime de plus en plus profondément la personne. Parce que c'est vrai que ces défauts, ces difficultés, ça, c'est attendrissant. Ce n'est pas pour le meilleur ou pour le pire, ce n'est que pour le meilleur, en fin de compte. Mais parce que je sais que je suis libre, que je ne suis pas obligée d'aimer la personne, parce que je n'ai pas fait de promesse. Quoique j'ai toujours une promesse, et c'est de continuer à aimer. Mais c'est plus facile, oui, c'est plus facile, je n'en sais rien, parce que chaque chose a ses difficultés. C'est peut-être plus facile en ne vivant pas tous les jours avec la personne, comme c'est plus difficile aussi de ne pas vivre à ses difficultés. C'est peut-être plus facile en ne vivant pas tous les jours avec la personne, comme c'est plus difficile aussi de ne pas vivre tous les jours avec la personne. Ce qui se passe souvent, que j'entends dans le témoignage des personnes qui me disent « Oui, mais tu choisis la facilité », j'ai envie de dire non, c'est d'autres difficultés, c'est d'autres obstacles qu'on rencontre. Aimer n'est jamais facile en fin de compte. Quoi qu'on habite ou qu'on n'habite pas avec la personne, qu'on la voit tous les jours ou pas, qu'elle soit du même milieu, pas du même milieu, du même âge, pas du même âge. Enfin, il y a toujours des quantités de différences qui fait que la difficulté est pareille pour tout le monde. Oui. Voilà, ça c'est ce que je pouvais parler de mon projet.
Et par rapport à cette écriture, donc, tu as travaillé en termes de premier jet, comme ça, avec une partie de témoignage, une partie de romance, où tu as pu créer des personnages, créer une trame. Comment ça s'est construit un peu dans les étapes, les couches un peu successives?
Alors, en fait, j'écris tout d'un premier jet, tout. En 6 mois de temps, j'avais écrit à peu près 600 pages. Mais bon, 600 pages, quand je fais une grosse police, donc allez, on va réduire ça à 300 pages. Et puis, j'ai eu des amis dans un groupe d'ateliers d'écriture. Je me suis dit, bon, on va un peu voir ce que pensent d'autres regards là-dessus. Et j'étais assez étonnée de l'enthousiasme des gens qui lisaient ça. Mais surtout parce qu'ils sentaient ce vent de liberté à travers ce que j'écrivais. Je n'osais pas dire que c'était très autobiographique au départ, parce que moi, c'est petit à petit que je... Maintenant, je ne me cache plus. Je suis une polyamoureuse et j'assume et je me sens pas une salope, comme toutes les femmes qui aiment du fond de leur cœur ne sont certainement pas des salopes. Mais j'avais du mal au départ à vraiment oser l'afficher, je vais dire, ou l'avouer. Donc, tiens, j'ai perdu le fil de mon idée, là. Qu'est-ce que
donc
je voulais dire?
C'était la façon dont tu avais écrit.
Ah oui, d'accord. Et alors, donc j'écrivais comme ça d'un jet, je romançais les choses, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnages qui sont vraiment créés, je veux dire, ils existent tous. Tous existent, mais vraiment tous. Mais le côté romancé, c'est que je ne parle que du charme de la relation que j'ai eue avec chaque personne décrite dans le roman. Et puis, mais je préfère le publier sous roman, même si là, maintenant, je l'avoue officiellement dans un micro. C'est pas grave, il y a peu de gens qui vont peut-être l'écouter ou peut-être tout le monde, ça m'est égal. Mais ça restera un roman, voilà. Je veux pouvoir dire, peut-être, quand ça me dérange, écoutez, ça vous regarde pas, c'est un roman, vous n'avez qu'à rêver. Et on verra bien. Mais maintenant, une fois que j'ai écrit la première trame, j'ai retravaillé les choses, j'ai allégé aussi, parce que parfois je me répète. Ouais. Et même maintenant, je croyais avoir allégé. Je suis donc, comme je disais dans la dernière lecture, et puis tout d'un coup, je suis sur des chapitres, je me dis, mon Dieu, mais c'est lourd, oh là là, c'est lourd. Mais peut-être pas, je ne sais plus où j'en suis, en fait. Il faudrait que je le redonne un peu à lire à d'autres yeux pour voir qui vont me dire. Mais c'est vrai que je fais confiance à mes amis de mon groupe d'atelier d'écriture, parce qu'ils sont très, très francs, très droits, et ils ont beaucoup de tact aussi pour dire les choses. Donc on se sent toujours soutenu, construit, donc ça c'est très agréable. Mais c'est la première fois que je me lance dans ce genre d'écriture, je vais dire, dans un but d'être publié un jour. Enfin, en tout cas, de l'envoyer, le but c'est de l'envoyer chez les éditeurs, qu'il soit publié ou pas. Après, ça m'est assez égal. Oui. C'est comme ça, oui. Mais j'aime beaucoup écrire, de toute façon. L'écriture m'a souvent aidé à remettre mes idées en place, quoi. Oui. Ça, c'est certain.
Donc, c'est une naissance, c'est vraiment quelque chose que tu mets en avant, que tu présentes. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est un geste qui peut être lié à un acte politique, mais dans le sens noble du terme, donc l'idée où on va pouvoir exprimer un point de vue qui engage, qui propose. Est-ce que tu penses que c'est un peu de cet ordre-là?
Ah oui, mais j'en suis même convaincue, parce que je crois que même c'est un peu le but de ce livre que j'ai écrit, c'était justement de secouer un petit peu les gens, parce que j'ai un côté provocateur malgré tout. Et l'idée était de discuter avec les idées préconçues, avec les dogmes, parce que dans ce roman, donc l'héroïne parle au jeu. Et elle se pose des questions et elle dit oui, mais enfin pourquoi? Mais enfin pourquoi? Et elle déballe ses idées enfin j'espère qu'elle démontre qu'il y a plus de logique à être libre que le contraire. Oui, mais l'idée est politique à 100%, ça c'est certain. Je suis plutôt anarchiste. Je n'aime pas les lois imposées. Je trouve que la loi. Pour toute personne qui est intègre avec elle-même, normalement, est capable de vivre en société. Non, je crois que la liberté, c'est faire les choses avec conscience, en fait. Je discutais de ça avec un ami, il n'y a pas longtemps, qui disait, oui, mais moi, je n'aimerais pas faire ça, parce qu'il était profondément croyant, pour avoir un mauvais karma plus tard. J'ai dit, écoute, le mauvais karma, le bon karma, ça se paye tout de suite. Je te donne un coup de poing, tu me le rends. Le karma, il est là. Tu me le rends pas, ben voilà, c'est comme ça. Je l'aurai pas, je vais pas le payer, ce coup de poing, 3 ou 4 semaines plus tard. Non, c'est théorie de bon karma et mauvais karma, qui est aussi une théorie subtile de culpabiliser les gens, moi j'y crois pas.
L'accès au paradis éventuel.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais si je donne consciemment un coup de poing à qui que ce soit, parce que franchement, il m'emmerde, je veux dire, et que j'estime que j'ai le droit de lui donner un coup de poing, parce que je suis consciente qu'on lui donne un coup de poing, ça va arrêter et qu'il va plus commencer, par exemple, à détruire tout mon petit jardin que j'ai planté, ben je suis consciente, je trouve que j'ai le droit de donner un coup de poing. Comme je trouve, hélas, c'est là où je suis politique et anarchiste, je regrette l'époque du Moyen-Âge où quand on passait de ville en ville, on exigeait la dîme, on exigeait de payer un impôt, c'était des mafieux qui exigeaient que si on traversait une ville, il fallait payer, et ben j'avais le droit de sortir mon gourdin et dire non. Je veux passer cette vie, je vais rien faire, tu m'embêtes, pan, tu as un coup de gourdin. Maintenant, je peux pas. On me fait payer des horodateurs, donc c'est le même principe. Je paye des horodateurs, donc c'est comme si je viens dans ma ville, dans une ville quelconque, je veux faire des courses. Ma chère madame, vous voulez faire des courses, vous êtes obligée de payer votre trottoir, sinon vous ne pouvez pas payer vos courses. Eh bien, je ne peux même pas sortir mon gourdin et dire « foutez-moi la paix, je viens apporter de l'argent dans vos villes, je viens le dépenser, je ne vais pas payer un trottoir. Si je fais ça, je vais en prison. » Eh bien, je regrette cette liberté du coup de gourdin qui était fait avec conscience, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr.
Thank you.
moi j'ai le sentiment que dans la découverte que je fais dans le mouvement polyamour ici à Bruxelles et à Paris, ben j'ai l'impression que les hommes que je rencontre, parce qu'après on peut aussi parler de la femme qui pour moi a un rôle central dans ce mouvement, mais que les hommes ont l'air d'avoir acte leur féminité. Donc tu parlais un peu des guerres, des choses comme ça. Moi j'ai un peu aussi cette utopie de me dire, eh bien en fait un homme qui a accès à sa féminité, peut-être pourrait-il être un peu plus sage et un peu moins bagarreur, un peu moins dans l'opposition, parce que aimer une femme pour un homme et se dire que un autre homme peut aussi la toucher, lui donner du plaisir, ça demande, je pense, de l'humilité et aussi du recul et de la tendresse pour l'autre homme qui est autour, qui est là, qui l'a vu ou qui l'a pas vu. Enfin, ça c'est tout un jeu, un jeu de relations qui se met en place et avec chacun qui se positionne. Mais est-ce que tu partages aussi un peu cette vision-là ?
Oui. Moi, je sais qu'en tout cas, un homme profondément viril est un homme qui a retrouvé sa féminité. Je n'ai jamais vu d'homme, en tout cas pour ceux que je connais, qui ont accès à cette féminité en eux, dégagent beaucoup de virilité. Et c'est vrai qu'en général, ces hommes vraiment virils sont des êtres plutôt paisibles, tendres et en un très bon contact avec la femme, en effet. Et en général, c'est des très bons amants aussi. Ça, c'est sûr. Mais je crois que oui, c'est pour l'homme, je crois que ça doit être plus difficile à vivre. Je veux dire, l'homme qui aime une femme et cette femme qui dit, écoute, moi, je suis libre, je vais aimer d'autres hommes si ça me chante, si j'ai envie, si ça se présente. Ça doit être probablement plus difficile à notre époque à accepter parce que, quelque part, la réputation générale, c'est que c'est l'homme qui trompe la femme. C'est la réputation générale. Et la femme qui accepte. Bon, d'après ce que dit François Saint-Père, qui a approfondi beaucoup la question, je me souviens qu'elle dit non, vous seriez étonnés, il y a beaucoup plus de femmes qui trompent, que je vais dire tromper dans le sens politiquement correct, leur mari que le contraire. Ou en tout cas, c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que cette féminité chez l'homme, ce serait pas mal, et c'est surtout ce principe que la femme ne lui appartient pas. Et je crois que toutes les bagarres et toutes les guerres et tout ça, c'est je veux prendre, ça m'appartient, c'est pas à toi. Et une femme qui dit non, je ne t'appartiens pas, et que l'homme finit par dire oui, je vais l'accepter, elle m'appartient pas, à mon avis, son besoin de possession et donc de guerroyer pour la possession, ça va être moins fort.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme un supplément d'âme qui pourrait apparaître à ce moment-là ?
Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Mais moi, je crois que de toute façon, nous avons, j'imagine, d'où je tiens cette certitude, j'en sais rien, mais j'avais en effet un de mes amoureux qui riait toujours et qui disait « Catherine sait ». Et souvent, ça s'est vérifié. Mes intuitions savent des choses. Et puis après, ça se découvre. Mais je crois qu'il fut une époque, nous vivions vraiment, les êtres humains vivaient réellement cette liberté de ne pas appartenir l'un à l'autre. De là à dire que la jalousie n'était pas là, probablement que si. Mais ce n'était pas dans les mêmes proportions actuelles. Et je le pense, d'ailleurs, je l'écris dans le roman, je pense que ça vient de la connaissance de comment les enfants ont été faits. Ce besoin de posséder et d'être possessif vient du moment, est apparu le jour où la femme, c'est apparu en deux étapes, je crois. Il se fait que avant l'être humain vivait toujours en communauté, et c'était l'homme qui chassait, il apportait la chasse, et en théorie, dans presque toutes les tribus, la chasse était partagée. Et puis je crois que les femmes avaient besoin d'être protégées par les hommes, et je crois que ce sont les femmes peut-être les premières qui ont exigé la fidélité sexuelle, parce qu'elles se sont dit, dans le besoin d'être protégées, s'il aime plus une femme, elle risque d'avoir la meilleure part de la chasse que moi. Et donc mes enfants en auront moins, donc elles ont peut-être commencé comme ça. Et puis, Ça part de mon imagination, tout ça. Et puis, j'imagine que c'est l'homme qui, quand il a compris que son sperme était responsable de la fabrication de l'enfant, du fœtus, il s'est dit, moi, je ne vais pas partager ma chasse pour l'enfant de l'autre. Donc, c'est au fait tout part d'un sentiment d'écocentrisme et d'égoïsme qui, petit à petit, a dû se développer au fur et à mesure que l'homme s'est sédentarisé aussi. Et puis là-dessus se sont greffées les théories religieuses, mais voilà. Mais je crois qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Il y avait un sentiment de communauté, de tribu, et on partageait les choses. Et donc, que les femmes aiment un autre homme, ça ne devait pas être très confortable. Mais peut-être qu'ils n'étaient même pas jaloux, j'en sais rien. Il existe encore des tribus, une tribu, paraît-il, quelque part en Chine, je ne sais plus où c'est le matriarcat qui domine. Mais bon, le matriarcat, ça veut dire la même chose, parce que, je veux dire, le matriarcat, ça veut dire au niveau liberté, c'est les femmes qui dominent, c'est les femmes qui organisent la vie dans la communauté, c'est les hommes qui chassent, qui apportent leur chasse, mais elles ont des amants. Mais si elles ont des amants, c'est que les mêmes amants ont des maîtresses, parce qu'ils ne vont pas se limiter à une seule femme. Donc, et paraît-il, il n'y a pas de jalousie. Donc, je crois que la jalousie, c'est aussi une question d'éducation et de... On nous explique tellement qu'être jaloux, c'est aimer, alors que c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, personnellement, je vais pas dire que je ne suis pas jalouse. Quand je vivais avec mon ex-compagnon et que je savais qu'il allait voir une femme ou deux, j'avais un peu de jalousie. Je trouvais ça même très agréable. Et de dire que j'étais pas inquiète, c'est pas vrai, je l'étais. Mais en même temps, j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mon compagnon de l'époque. Et quand il rentrait... Je lui demandais comment ça va, comment tu as passé le temps et tout. Bon, il ne rentrait pas dans les détails parce qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas. Mais j'aimais bien quand il m'expliquait. Je trouvais qu'il y avait une tendresse qu'on partageait quand il me disait « Oui, j'ai passé une bonne soirée, etc. » Ça me faisait plaisir d'entendre ça. Ça me faisait plaisir de savoir heureux avec d'autres femmes. Moi, je le trouvais même plus, encore plus désirable, encore plus beau. Je me disais « Je ne me trompe pas, il n'y a pas que moi qui le trouve sexy, quoi. » Donc,
il y a une grande sérénité dans ce que tu dis là.
Oui, mais peut-être parce que je suis quelqu'un qui est terriblement bien avec elle-même, en fait. Moi, je répète une phrase que Brigitte Bardot disait souvent, a dite, et j'ai repris. Un jour, un journaliste demande à Brigitte Bardot, mais en fin de compte, c'est qui l'homme de votre vie dans tous vos amoureux ? Puis elle dit, mais c'est moi-même. Et en fait, je me sens comme ça, en fait. Je ne suis pas amoureuse et je ne tombe pas amoureuse parce que j'ai besoin d'un homme ou d'un protecteur ou de me sentir aimée. Je me sens très très bien avec moi-même, avec mes enfants et mon travail et toutes mes nombreuses passions. Donc, moi, si j'aime bien partager ça, en fait. C'est plus ça. Pour moi, l'amour, c'est être partagé. Mais j'aime bien me sentir aimée. Ça, je trouve très agréable. Et quand je sens qu'un de mes amoureux ne m'aime plus, ça ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de le voir. Si, je veux bien le voir, mais alors j'arrête la relation amoureuse parce que j'ai besoin de me sentir aimée. Je trouve que c'est important. Je crois que c'est pour ça que je suis une polyamoureuse, parce que je trouve qu'aimer, être aimée, c'est délicieux, quoi.
Mais Paul Salomon a écrit un livre il n'y a pas longtemps, donc La brûlante lumière de l'amour, je suis un peu en train de relire, et il y a cette idée qui est développée, notamment qu'en effet, s'aimer soi, à un moment donné, c'est cohérent parce que ça peut évidemment permettre à d'autres personnes d'aller vers la personne qui s'aime et qui, sans évidemment être dans l'idée d'en mettre plein la vue, mais avoir un bien-être intérieur... C'est la base, en fait, d'une autonomie affective.
Oui, moi je le crois. Je le crois. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui m'appellent, qui me téléphonent, qui se plaignent de leur peine de cœur. Et quand je gratte un peu, je vois que c'est plus parce qu'elles ont très peur de se retrouver toutes seules ou tout seules, si c'est un garçon ou un homme. Bon, j'ai pas envie de les blâmer parce que je trouve que c'est très difficile. Hein. Je trouve que l'ensemble de la société ne nous apprend pas ça. Les Africains sont plus doués pour ça. Ils ont une technique qui s'appelle l'auto-louange.
Ah, j'ai entendu parler de ça.
Oui.
C'est pas mal.
C'est extraordinaire.
C'est pas mal.
C'est extraordinaire. Ouais. Alors, au fait, le principe, c'est que on parle de ses qualités. Il ne faut pas inventer des choses qu'on n'a pas. Ça, c'est mon ordinateur, excusez-moi. Donc,
quelqu'un qui faisait une auto-louange, peut-être, à distance.
Oui. Donc, le principe de l'auto-louange, c'est qu'on prend ses qualités, nos propres qualités, qu'on a momentanément parce qu'on a des choses à dépasser, ou qu'on a profondément parce que c'est un don avec lequel on est né, et on les met en valeur sous forme de prose ou de poème. Et moi, j'ai été initiée par ça, par Marie Mélisse, qui a écrit un livre, d'ailleurs, je ne sais plus le titre, mais bon. Et un jour, j'ai essayé, et c'est vrai que ça donne de la confiance et de la force. Eh bien, je me souviens, j'en ai parlé, je ne sais plus à qui, un intellectuel ou un philosophe, qui n'a fait que dénigrer tout ça, avec des concepts et des théories totalement occidentales, du style, oui, il ne faut pas trop s'auto-flatter, sinon on ne fait plus rien. Alors que ce n'est pas vrai. Tout enfant qui reçoit une récompense, mais l'adulte, on reste toujours dans ce même principe-là, je ne veux pas dire une récompense, un encouragement et un regard bienveillant et un regard qui dit mais tu sais tu en es capable parce que tu as telle et telle qualité, eh bien il fait des étincelles. Et je trouve que toute notre société occidentale, c'est pas ça. C'est je te punis, je te donne des mauvaises notes, enfin,
souligner l'erreur quoi,
toujours souligner l'erreur. Donc c'est très difficile de à partir de là d'être bien dans sa peau, et donc après être capable d'aimer sans entrave, je veux dire, sans exiger de l'autre de donner ce qu'on n'a pas reçu, parce que souvent c'est ça ce qui se passe dans les relations. On dit je t'aime, mais c'est plus donne-moi ce que j'ai pas reçu, et je t'aime parce que tu oui. Moi j'ai pas envie de critiquer, c'est très difficile, mais moi je vise autre chose. J'ai envie de dire je t'aime parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Mon ex-compagnon parfois disait oui mais tu les aimes parce qu'ils font mieux l'amour. Mais non, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
La peur de la comparaison chez l'homme, le sexuel.
Oui, ça n'a rien à voir. Et même, j'ai envie de dire, même il peut y avoir des amoureux qui font très mal l'amour, mais comme il y en a un autre qui fait très bien l'amour, ça me permet de l'aimer lui exactement à 100% comme il est, sans devoir dire écoute, je voudrais, sans exiger des performances. Bon, ils auraient peut-être plutôt intérêt quand même, les hommes, à apprendre à bien faire l'amour, ça vaut la peine. Mais être polyamoureuse, bah, pour ceux qui n'y arrivent pas parce que c'est compliqué ou n'importe quoi, bon, je sais pas, moi je suis pas un homme, mais au moins ils sont libérés aussi de cette exigence là
oui, c'est ça.
Oui,
bien sûr, si on attend tout de quelqu'un, il y a évidemment une pression.
Une pression qui s'installe, oui. Et puis à un moment donné, moi je ne l'avais pas tout à fait compris non plus dans mes premiers pas en tant que polyamoureuse, parce qu'à un moment donné, il y avait un peu de difficulté dans mon couple. Et je mettais un peu de pression en disant « mais tu m'aimes plus » du style comme ça. Et ça, j'ai compris aussi que le polyamour, on n'est pas obligé non plus d'avoir une image de couple. On n'est pas... ça c'est Elodie qui m'a appris ça, elle dit non, moi je ne vis pas en couple, j'ai plusieurs amoureux. Eh ben oui, pourquoi est-ce qu'il faut vivre en couple aussi, on n'est pas toujours obligé. Moi je suis plutôt maintenant dans ce cheminement là mais je ne vais pas dire que ça y est, c'est fini, je ne vivrai plus jamais en couple. Je laisse venir les choses au jour le jour, et ça c'est aussi la liberté, c'est de ne pas faire des promesses. Et une seule promesse que je fais, c'est de dire j'essaierai toujours d'aimer, point. Quoi qu'il arrive, mais c'est la seule promesse que je puisse faire.
Et ma compagne Sophie parlait aussi de la liberté comme étant, en fin de compte, elle avait lu ça aussi, je pense, quelque part. Aimer, ça demande, enfin, aimer dans la liberté, donc la liberté demande un travail, demande en fait du boulot.
Oui.
Pour être libre, il faut bosser, en fait.
Ouais,
et bosser dans le bon sens. Hein.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, Ah oui, les gens croient que la liberté, oui, c'est ça. Et ça, c'est moi, j'ai rencontré dans ce milieu polyamoureux et lutineur énormément de profondeur, mais une profondeur qui m'épate et qui m'enthousiasme. Je trouve que tous les lutineurs polyamoureux ont une réflexion en profondeur de leur engagement par rapport aux personnes qu'ils aiment, que ce soit leur compagne, pas leur compagnon, leurs enfants. J'ai trouvé ça, et c'est vrai qu'aimer, ça demande du travail. La liberté, ça demande du travail. Ce n'est pas je fais n'importe quoi, comme disait je ne sais plus qui, ah, t'as une pulsion et tu te laisses aller à ta pulsion. Mais ça n'a rien à voir. Rien du tout. Oui, oui, mais c'est ce qu'on me dit. Les gens parfois me disent, un de mes amis me dit, oui, tu as le cul en feu. Bah, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Alors, je réponds même plus, parce que, mais c'est vrai que je le dis là devant un micro, ce n'est pas ça. Je suis même beaucoup plus chaste, entre guillemets, qu'une quantité de gens qui, moi ça m'arrive de passer des périodes sans avoir aucune relation sexuelle pendant longtemps, même en ayant un amoureux, et ça ne m'inquiète pas. Je ne cherche pas ça, je ne m'en inquiète pas. Je trouve que tout est bon dans l'amour. Tout, que ce soit la chasteté, que ce soit la relation elle-même, que ce soit la tendresse, que ce soit, tout est bon. Mais se sentir aimé, c'est des tout petits gestes, et c'est comme dit Sophie, c'est un travail au fait. Pas se sentir et aimer l'autre, c'est sentir il est mal, vous me stère. En fait, il faut se brancher tout le temps sur son intuition.
Un petit extrait,
oui, avec plaisir.
Du livre de Paul Salomon,
oui.
La brûlante lumière de l'amour. Donc, le titre est déjà engageur. Voilà. Et c'est, donc il y a une vingtaine de lignes, mais je trouve que ça vaut la peine. Voilà. L'amour du désir prend racine dans les premières années de l'enfant. Celui-ci entend très tôt la condamnation implicite posée sur le sexe. Il décide soit de faire une impasse sur ses sensations, soit de les préserver et de ne se fier qu'à elles. Une grande part de son évolution créative se joue à ce moment-là. Pendant l'enfance et l'adolescence, Le poids des croyances vient étouffer temporairement cette force initiale. Mais l'adulte aura la possibilité de la retrouver à l'occasion d'un choc ou d'une évolution, ce qui est parfois la même chose. L'amour du désir doit se réassumer, se choisir. Tourne la page. Il se rattache en nous à la partie incomplète et souvent secrète, parce qu'il ne s'agit pas d'une valeur acceptée socialement. Pourtant, les êtres qui cultivent l'amour du désir, moi je dirais des désirs, sont des pôles de rayonnement pour leur entourage.
Mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Dans le roman, j'ai même ce que j'ai expérimenté, mais plutôt dans les expériences libertines. Parce que le libertinage, c'est vraiment basé sur le regard, l'intuition. Et on peut avoir une relation sexuée avec un homme ou une femme sans aucun contact de parole, juste parce qu'il y a du désir. Je reste persuadée que le désir existe entre un homme et une femme, même que ce soit passager, parce que cette même relation pourrait être transformée c'est de l'amour, au fait. Le désir, je ne parle pas de l'excitation, parce que c'est très différent. Il y a des hommes ou des femmes qui se sentent excités. Ce n'est pas la même chose que le désir. Le désir, c'est parce qu'on voit une façon de bouger ou une façon d'avoir un petit éclat dans le regard, tandis que l'excitation est purement sexuelle. Mais le désir, c'est autre chose. Et pour moi, le désir, c'est l'amour. Et l'amour qui n'a pas de désir, ce n'est pas de l'amour. L'un et l'autre vont ensemble. Et c'est vrai que ça vient de l'enfance, ça c'est sûr et certain, oui. Mais je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas dire « oui, je la désire, mais je ne l'aime pas », c'est pas vrai. Si on désire quelqu'un, c'est qu'il y a de l'amour déjà. Et au fait, ce qui se passe dans une relation, c'est qu'on prolonge la relation en continuant à se voir, en continuant à parler à quelqu'un, et ça amplifie la connaissance intuitive de dire « mais au fait, oui, je ne me suis pas trompée, il est vraiment fantastique, il est vraiment merveilleux, il est vraiment... » Pourquoi ? Le désir, c'est vraiment, comment je vais... l'antenne qui capte tout de suite la personne avec laquelle on pourrait vivre une relation amoureuse. Il y a une peuplade en Afrique, comme ça, je trouvais extraordinaire, qui vit dans le désert, donc ils n'ont pas le temps de se voir longtemps. Et il y a des réunions qui se font une fois par an. Toutes ces peuplades le savent, les hommes et les femmes viennent. Alors, leur beauté, c'est le blanc des yeux et le blanc des dents. Et il y a eu un reportage là-dessus. Donc les hommes, c'est les femmes qui choisissent. Ils arrivent là, un jour ou deux à l'avance, et puis il y a le jour de la danse où les hommes écartent leurs yeux comme ça, ils font des grands sourires, et ils dansent. Et les femmes, rien que par la danse et le désir qu'elles éprouvent pour ces hommes, le choisissent et ça devient leur époux. Et ça fait en général des très bons couples. Donc, ils ne se sont pas compliqués la vie, ils ont très bien compris que le désir est le phare ou qui montre que telle personne va être aimée et peut être aimée. Alors là-dessus, évidemment, on peut évidemment greffer toutes les complications sociales. C'est vrai que je peux rencontrer dans la rue peut-être quelqu'un qui n'est absolument pas de mon éducation socioculturelle, parce qu'il aurait une autre religion, une autre langue, une autre façon de gagner sa vie, mais je pourrais peut-être éprouver beaucoup de désir pour elle. Eh bien, je reste persuadée que si on nous décapait de tous ces superflus que notre éducation nous a donné, nos langues et tout, oui, on serait des gens qu'on s'aimerait réellement et profondément. Ça, je l'ai découvert par ces relations libertines où on ne prolonge pas la relation, justement. Elle ne dure que le moment d'une soirée, d'une après-midi. Et c'est des moments profondément sincères et réels.
C'est ça.
Et c'est vraiment de l'amour, mais ça ne dure peut-être qu'une heure ou deux. Alors, moi, je ne crois pas à dire, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Oui, il y a la passion. Françoise parlait, oui, la passion, et puis quand la passion tombe, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'amour. Je nuance. Parce que l'amour, il est là. Seulement, il y a beaucoup... L'amour, au fait, comment expliquer ? Tous les concepts matérialistes Souvent on dit l'amour doit être prouvé parce que je t'ai donné de l'argent, parce que je t'ai donné à manger. Mais non, l'amour c'est une énergie. Ça c'est. Alors on utilise l'amour pour dire bon, on va vivre ensemble et on va élever des enfants et on va s'entraider. Mais c'est, ça c'est de l'amitié. Ça c'est de l'amitié. L'amour c'est vraiment une énergie au-delà. C'est toujours lié au désir. Le désir n'est pas uniquement sexuel, il peut être aussi très tendre, je vais dire. Moi, je sais que j'aime mes chiens, que j'ai de l'amour pour mes chiens, parce que j'ai le désir de les toucher. sinon, j'aimerais pas mes chiens. Je veux dire, j'ai le désir de toucher leur poil, de les caresser. J'aime un enfant parce que quand il pleure, j'ai le désir de le consoler et d'essuyer ses larmes. Donc, oui.
Oui, et donc tu fais le geste aussi avec ta main, hein,
oui.
Consoler.
Oui.
C'est clair que dans nos sociétés occidentales, ben, on est, pour ma part, je pense, un peu faussement libéré. Quand on parle de la libération sexuelle, je pense qu'elle est surtout commerciale.
Oui.
Et quand on aborde la sensualité du toucher... tout de suite on est dans un rapport un peu calculateur ou des projections, des gens demandent, tiens, d'ailleurs le polyamour qu'on imaginerait platonique ne pose pas de problème à beaucoup de gens.
Non.
Mais si on dit tiens, j'aime 10 personnes, c'est super, bah, tu dis bah, tu mets un poster dans ta chambre et ça y est quoi, de chaque personne.
Ouais.
Mais quand il y a le toucher, il y a la rencontre, et on est peut-être dans l'authenticité des corps qui ne trichent pas.
Les corps ne trichent pas. Les corps ont des choses à donner. Un jour, je discutais comme ça avec un polyamoureux et il me disait, oui, maintenant, moi, j'ose aimer les femmes que j'ai envie de désirer. Je les aime et je les désire et je fais l'amour avec elles. Et il dit, et je me sens dans une colère parce que j'ai eu l'impression que pendant des années, on m'a empêché de donner.
C'est ça.
Parce qu'au fait... C'est par les corps, c'est vrai, on dit une femme se donne, mais c'est vrai, une femme se donne, mais un homme aussi, un homme aussi, et je vois pas pourquoi on a dit que se donner était quelque chose qui ne pouvait pas se faire, c'est ce qu'ils disent toutes les morales religieuses, et toutes les morales, je veux dire, laïques, on dit, tu as osé te donner, mais c'est scandaleux, c'est mal, mais attends, alors quoi? C'est devenu mal de donner parce qu'on donne avec le corps. Ben, c'est toujours donner. Et donner n'a rien de négatif. Luis Sanza, qui est un chaman argentin que j'ai suivi, dont j'ai suivi les enseignements pendant 3 ans, il parlait aussi du senti du corps. Et moi, je trouve qu'en effet, le senti du corps est celui qui est le plus vrai. C'est celui qui ne mentalise pas. Le corps est plus rapide même que le mental.
Tout à fait.
Il a des réflexes beaucoup plus rapides avant même que notre esprit nous dise « Attention, freine !» Non, on freine. C'est déjà fait, puis « Ah oh, !» On se rend compte qu'il était temps de freiner. Et le mental se rend compte que c'était nécessaire. Mais Luis Sanza parle des mémoires cellulaires.
C'est ça.
Et il dit aussi, c'est Luis Sanza qui parlait aussi du désir. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je n'étais pas encore... aussi, j'acceptais pas encore mon côté polyamoureux ou femme libre, mais il m'a aidé beaucoup en disant c'est la partie féminine qui aime, donc c'est jamais la partie masculine qui est dans l'amour, c'est la partie féminine qui aime et c'est le désir qui aime. Il disait, je ne peux pas t'aimer toi, mon ami. Et je ne suis pas un homosexuel pour ça, disait-il, si je ne te désire pas. Et donc, comme on parlait tout à l'heure, le désir de donner la main, de se serrer dans les bras, voilà, ça n'est pas des désirs sexuels. Le désir n'est pas que sexuel. Le désir passe évidemment par le corps. Par le corps ou par le goût. Mais... moi en tout cas je n'arrive pas à imaginer un désir purement intellectuel, parce que même si je pourrais désirer écouter une belle musique de Bach, je suis désolée, ça passe quand même par l'ouïe. Si je désire par exemple d'écouter un Michel Onfray, j'ai plus le désir de l'écouter que de le lire, donc ça passe toujours aussi Oui, on peut peut-être avoir des désirs intellectuels, mais alors je n'ai pas cette même satisfaction qui passe par celui du corps, quoi. C'est comme le désir de voir quelqu'un, ça touche un des cinq sens qui est la vue, donc c'est le corps. Mmh. Oui. Moi, je sais très bien la différence entre une pulsion et un désir. Même en vivant en couple, on peut avoir des pulsions parce qu'on a envie, tout simplement, d'un bon orgasme, par exemple. C'est une pulsion, quoi. On peut très bien faire l'amour avec son compagnon, pas du tout par amour, mais par pulsion. Donc le désir, c'est totalement différent, c'est autre chose. Oui. Mais c'est vrai que le polyamour, moi je trouve que j'ai envie de dire aux gens... Mais d'abord j'ai envie de pousser les gens dans ce chemin, pour être heureux. Parce que le nombre de couples où je vois des gens qui se culpabilisent parce qu'ils se sentent attirés par quelqu'un d'autre, mm-hmm. très fort, et qu'ils ont vraiment de l'amour et de l'amitié mm-hmm. pour cette personne, et qu'ils se rendent compte qu'elle partage plein de choses, et qu'en même temps ils se disent « Oui, mais moi j'aime mon épouse ou j'aime mon mari, j'ai pas envie de lui faire mal. » Et ils sont là dans une torture, mais une torture. Et en fin de compte, cette torture fait que tout leur entourage souffre et n'est plus bien. Bon, à quoi ça sert ? On va dire « Écoute, t'inquiète pas, j'ai vraiment envie d'approfondir cette relation avec telle personne. Mais t'inquiète pas, je t'aime toujours, je vais revenir, je serai toujours là pour t'aider. » Comme disait François Saint-Père, je crois... J'ai lu, en fait, la fidélité, oui, c'était dans son interview, c'est être là quand la personne a besoin d'aide. C'est ça, la vraie fidélité. Ou être fidèle dans dire, je sens que tu n'es pas bien, je t'écoute. Ou la fidélité, c'est aussi, je ne suis pas bien, mais je ne vais pas t'emmerder parce que je ne suis pas bien.
Donc, on retourne à l'idée de l'autonomie affective.
Mais
aussi.
Oui. Ouais.
Mais donc, moi, j'ai aussi entendu, lu quelque part, et je trouvais ça juste, il y a l'amour, il y a l'amitié. Hein. En fin de compte, dans la langue française, il n'y a que deux mots
oui.
pour exprimer un champ très vaste de nuances oui. entre des relations humaines. Et donc, oui. C'est un peu inquiétant de se dire, tiens, dans le fond, la langue française nous propose en gros que ça.
Oui.
Et donc, on est obligé d'osciller,
oui.
de nuancer, de mettre des espèces de mots avec des rallonges, des tiroirs. Et des...
Oui.
Bon, et je pense qu'il faut continuer à inventer. Parce que pour d'autres sentiments, par contre, il y a beaucoup de nuances. Mais là, il n'y a que deux mots.
Il n'y a que deux mots. Et c'est très amusant que tu parles de ça, parce que l'autre jour, la semaine passée, et j'ai essayé de podcaster ça sur mon ordinateur, et ce n'est pas apparu, dans l'émission Tout autre chose avec Martine Cornille, elle interviewait... un Indien, autochtone, comme ils disent, au Canada, qui parlait donc de toute la souffrance que les Indiens ont souffert. Et il disait une chose que je trouvais passionnante, mais justement, je n'ai pas pu noter et je voulais podcaster. Il disait, vous savez, dans notre langue, il y a plusieurs mots pour parler de l'amour.
Mmh.
Et il disait, entre autres, et alors il donnait un exemple et il expliquait l'étymologie de ce mot. Et elle a dit, parce que pour nous, c'est plein de nuances et de choses. Et voilà. Du coup, je voudrais réécouter toute cette émission. Mais c'est exactement ça, c'est vrai.
En grec, je pense déjà qu'il y avait trois mots.
Il y avait trois mots.
Il y avait agapé, il y avait...
Je ne sais pas, moi, oui. Je ne les connais pas.
Bon,
oui, voilà.
C'est à creuser.
Oui, oui. Il faut créer des mots, il faut créer des... Il ne faut surtout pas dogmatiser l'amour, quoi. Point. Il ne faut surtout pas lui dire, ça, c'est de l'amour. Moi, je me souviens d'un interview aussi écouté à la radio de quelqu'un qui avait écrit Fidélité et couple. C'était écrit par un psy et qui proclamait j'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça va revenir. Enfin, il proclamait avec certitude qu'il n'y avait qu'une initiation, c'était la fidélité dans le couple. Non, je ne suis pas d'accord. Ça peut être une initiation, tout dépend pourquoi, quels sont les motifs, quelles sont les raisons profondes. Si c'est des raisons parce que la morale et l'éducation dit qu'il faut être fidèle et que les gens se forcent et se forcent et se forcent à le faire, bah pour moi, il n'y a aucune initiation. C'est juste un forcing qui en plus crée des déviances hein, souvent. Ça crée des déviances, ça crée des problèmes, c'est des déviances à tous les niveaux, et relationnels, et probablement même dans la santé, et des maladies. Mais non, non, pour moi, l'amour est infini, infini, infini. Et chaque histoire d'amour, depuis que le monde existe, n'est pas pareille. Que ceux qui ont envie d'être fidèles parce qu'ils sentent... Moi, je crois d'ailleurs qu'il y a des tempéraments différents aussi. Je crois qu'il y a des gens qui vraiment n'éprouvent pas de désir pour personne d'autre que pour leur épouse ou leur époux. Bah, tant mieux, mille fois tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, franchement, j'ai pas envie de leur dire, mais vous vous trompez, vous n'y connaissez rien. Non, je suis sûre et certaine à 100% que leur amour est extraordinaire. Mais si les autres ont envie d'autre chose, eh bien, moi, j'ai envie de dire, mais allez-y, vivez-le. Vivez-le, entrez dans le dialogue. Ça prend du temps, visiblement, même. C'est pas pour ça que c'est la panacée du bonheur. C'est tout aussi compliqué qu'une vie de couple dite classique, entre guillemets. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de plus de dire « moi j'ai trouvé la formule bonheur », mais non. Elles ont autant de difficultés, ces relations polyamoureuses, il y a autant de souffrances et de difficultés et de peines, mais il n'y en a ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Et les autres n'en ont ni plus ni moins. Ben, la liberté, c'est délicieux. Mais la liberté, c'est aussi ne pas se couvrir de certitudes, voilà. Donc, les certitudes, on peut en avoir au jour le jour, parce que sinon, on n'avance pas. Mais il ne faut pas avoir de certitudes pour le lendemain, ni le surlendemain. Et c'est peut-être ça qui fait peur aux gens. Parce que toute notre société se construit sur des certitudes, sur des assurances... Assurance pour ceci, assurance pour cela, assurance contre le vol, assurance contre l'incendie. Tout ça, c'est pour avoir des certitudes. Ouais. Voilà le mot de la fin.
Je te remercie, Catherine.
À bientôt.
C'est donc ici que se termine cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en diffusion mensuelle depuis peu sur les ondes de Radio Campus, dont je salue toute la nombreuse équipe au passage. Chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h, en fréquence modulée 92.1 MHz à Bruxelles. Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Sieste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, Longcourt et Pastèque, deux autres morceaux du même groupe Suerte, disponible sur le site de musique jamendo.com. Toutes ces musiques ainsi que cette émission autoproduite sont sous licence Creative Commons 2.5. Vos réactions, commentaires, propositions ou réécoutes de l'émission à la carte sur le site de polyamour.be. Et pour les amateurs de rencontres et d'échanges sur le sujet des amours pluriels, pour rappel, chaque premier vendredi du mois, les rendez-vous Café Poly au Greenwich à Bruxelles, rue des Chartreux. Également à Namur, Café Poly à la demande. N'hésitez pas à lancer les rencontres dans votre région. Plus d'infos sur le forum de polyamour.be. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs, des utopies.